Nous sommes très contents de recevoir à nouveau Jean Goldzinck, professeur, ancien professeur à l'École normale supérieure et spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, qui va nous présenter aujourd'hui une pièce qu'il connaît bien, puisqu'il en a assuré pour les éditions Garnier Flammarion la présentation et peut-être même l'édition du texte. Bon. Peut-être tu as fait l'édition du texte pour Garnier Flammarion ou pas ?
Je me souviens plus.
Il se souvient plus. Bon, enfin, il l'a fait. Bref, c'est donc quelqu'un qui connaît cette pièce pas si connue de Voltaire, Zahir, et qui la connaît très bien et depuis longtemps, et qui a accepté de venir en parler à vous, élèves spécialistes et non spécialistes de lettres en Cagne, et qui donc... aller plancher peut-être cette année sur cette pièce au concours. Voilà, et je cède la parole immédiatement à Jean Goldzinck pour qu'il présente cette pièce de Voltaire.
Mais écoutez, je m'attendais à tout, sauf à voir Zahir un programme. Je vous raconterai tout à l'heure comment j'ai pu le publier. Ah bon, alors donc mon titre c'est Zahir et nous. Alors Zahir, qu'est-ce que c'est ? Voltaire répondrait du théâtre policé, du théâtre civilisé, conforme à l'idéal de l'art. Et nous, nous, c'est vous et moi. Je vous considère comme de futurs collègues en formation. Et donc, je vais commencer un cran en arrière par rapport à un exposé pour tout le monde. C'est-à-dire que je vais me poser la question... Qu'est-ce que c'est que la critique littéraire, puisqu'en apparence, c'est ce que je vais faire. Ça relève de la critique littéraire. Je dirais que la critique littéraire, vous prenez mes chiffres comme tout à fait approximatifs, c'est 70 à 75% d'érudition historique, 10 à 15% de travaux linguistiques de divers ordres, hein, de la figure de style à la sémiotique et à tout ce que vous voudrez, et puis 15 à 20% de jugements esthétiques. Alors, parmi les 70 à 75% de travaux qui relèvent de l'histoire, de l'approche historienne, il y a évidemment la datation du projet esthétique, du manuscrit, des éditions, des variantes, des représentations scéniques. Il y a les fameuses sources qui vous concernent en partie à travers le parallèle Othello, c'est ça ? Othello Zahir. Mais que vous aurez intérêt, il ne faut pas parler de sources, il faut parler d'intertextes. Alors, vous avez l'histoire des réceptions, et en élargissant ce champ déjà vaste et assez disparate, on peut aussi évoquer le contexte biographique, dont vous savez qu'il est jugé le plus souvent comme capital, quel que soit son mode d'approche chronologique, psychanalytique, sociologique, etc. Le contexte générique, c'est-à-dire s'agit-il par exemple d'un roman en jeu, d'un roman en île, d'un roman épistolaire, d'un roman historique, d'un roman pour la jeunesse, etc. Hein, contexte générique. Le contexte poétique, dans la mesure où il y a souvent, déjà depuis à partir du XVIe déjà, des écoles rivales, des modes divers et successifs, des désirs d'innovation ou de conservation, etc. L'état des idées, des mentalités, des sensibilités, le contexte socio-économico-politique, qui intéresse particulièrement les historiens et les sociologues qui s'occupent de l'art. Et puis enfin, je ne sais pas où les mettre, oui, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, les analyses linguistiques diverses. Alors, une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, vous le savez comme moi, on les met dans un bocal, on agite, on met tout ça sur la table et on trie comme on peut. On ajoute une garniture, bien entendu, d'appréciation sur les personnages, sur le sujet, sur le style. Et le résultat s'appelle au choix de l'histoire littéraire informée ou de la critique littéraire savante. Le sommet se dépose, le sommet du genre se dépose dans la Pléiade, hein, où n'atteignent que les sommités universitaires, comme c'est bien normal. Alors, qu'est-ce qui manque ? Manque-t-il quelque chose à ce que je viens de décrire, à cet énorme amas qui a été entassé par des générations de chercheurs? Je crois que ce qui manque relève justement de ce qu'on devrait appeler l'entendement esthétique. Parce que des jugements esthétiques ne font pas du tout un entendement esthétique. Un entendement esthétique, pour mériter ce nom, doit proposer quelque chose de d'ordonné, d'articulé, de démonstratif, et donc de discutable, entre pairs ou non pairs. Or, je crois que cette notion d'entendement esthétique n'est absolument pas présente dans les débats entre critiques littéraires. En tous les cas, ce statut d'entendement esthétique n'a jamais été discuté, à ma connaissance, en critique littéraire. Alors, je donne aussitôt un exemple. Vous prenez le tome 8 des œuvres complètes en 150 volumes de Voltaire en cours de parution d'édition à Oxford. C'est le tome consacré à Zaïre. J'ai donc lu la savante préface de notre consoeur anglo-saxonne. Alors, je rappelle pour mémoire que la Pléiade a publié 13 volumes de la correspondance de Voltaire et pas un seul de son théâtre. Donc, faut bien comprendre, hein, de quelle œuvre vous parlez. Là, c'est une œuvre absolue, qui a un statut absolument à part. Hein. Il ne faut pas croire que Zaïre a le même statut que Othello. Hein. Pas du tout. Alors, on nous explique dans l'introduction du tome 8 combien et pourquoi Voltaire est ridiculement inférieur à Racine. En effet, notre étourdi dramaturge des Lumières confie à une jeune fille enfermée au sérail dès sa naissance des tirades que notre savante consoeur britannique considère comme invraisemblables. Vous voyez ? Invraisemblables. Car hors de sa portée, vu son âge, vu son éducation, vu sa situation. Alors, ce fiasco irresponsable, on peut en chercher les raisons. Et il y a plusieurs facteurs bien documentés. D'abord, il y a la légèreté d'esprit de l'auteur, ce fameux chaos d'idées claires, de feu Émile Faguet, qui a tracassé des générations et des générations de lycéens. Ensuite, vous avez sa frénétique vitesse d'exécution, puisque le premier jet de Zaïre s'écrit, se déverse, se débonde en 3 semaines. Vous avez la variété de ces divers projets concurrents, sa vie mondaine, etc. Tout ce qui interdit un travail réfléchi. Et puis, vous avez son vicieux besoin de mêler théâtre et propagande philosophique, qui exprime l'incapacité du siècle des Lumières à produire du bon et vrai tragique. Bien entendu, vous le savez comme moi, Racine n'a jamais fait ça. Hein ? Pensons à Phèdre. La liste des personnages nous dit qu'un certain Thésée doit figurer dans la pièce. Or, le dit Thésée, en raison d'une de ses multiples histoires de cul, se trouve, hein, si mes souvenirs sont bons, en Épire. C'est quand même assez loin d'Athènes. Alors, Racine le fait s'évader pour qu'il assiste à l'action, limité à 24 heures. Alors ça, c'est du travail de grand classique, hein, ça c'est... qui déclasse Voltaire sans retour et en plus dans sa meilleure tragédie, à part Mahomet au jugement de Diderot et Rousseau. Et eux aussi sont affectés par la propagande philosophique des Lumières. Alors, qu'a-t-on démontré par là ? Qu'a-t-on démontré par là ? Que l'érudition peut cohabiter avec la sottise. Et la sottise peut cohabiter avec l'ignorance. Même chez une savante femme d'esprit, notre consoeur britannique, qui fait la préface dans les œuvres complètes. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a une bêtise et une ignorance proprement esthétique. Ouais. Proprement esthétique. En effet, aucun spectateur classique et moderne ne peut se formaliser de ce qui tracasse ma consœur. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, ce qu'elle dénonce, ce qui l'étonne, ce qu'elle trouve absolument inconcevable en France après Racine, hein, en 1731, c'est parce qu'il s'agit d'un postulat qui est inscrit dans le contrat tacite de lecture ou de représentation théâtrale. Alors vous me direz, oui, peut-être, autrefois, mais aujourd'hui, avec les progrès des sciences, des techniques, de l'esprit critique à travers les réseaux, c'est devenu insupportable. Alors je me tourne vers le polar. Écrit ou filmé. Voilà. Quand j'étais à Grenoble, on m'a demandé de faire une conférence à l'Université populaire. J'avais proposé San Antonio. Quand je me suis présenté avec quelques-uns de mes élèves de seconde, il y avait un panneau inscrit. D'abord, ça les avait surpris. Puis il y avait un panneau inscrit pas de séance ce soir. Alors, je me tourne vers le polar. Écrit ou filmé. Est-ce que vous connaissez un seul exemple de détective privé ayant résolu un assassinat en dehors de Sherlock Holmes ? C'est une invraisemblance absolue, catégorique. Alors comment expliquer l'énorme succès du genre sous nos yeux ? Hein ? Qu'est-ce que je lis ? Vous, sans doute, une fois que j'en ai fini avec les articles et les livres sur la littérature, je lis les polars. Hein, bon. Voyez donc que l'argument de la vraisemblance est absurde esthétiquement. Ouais, c'est absurde esthétiquement, parce que c'est exactement la même chose. C'est pas l'esprit des Lumières qui est en cause, là. Hein, c'est notre propre fonctionnement par rapport à certains genres esthétiques. Alors, me permettez-vous de devancer l'objection qui vous torture la tête ? Je suppose que vous êtes pressé de me dire, monsieur et cher maître, je tiens à cher maître, monsieur et cher maître, ne vous en déplaise, la préface qui vous agace peut s'expliquer autrement que par une carence de l'entendement esthétique. Il s'agit tout bonnement de la traduction, de l'inscription d'un énième jugement de l'histoire. Le théâtre voltairien est mort et enterré faute d'acteurs, faute de metteurs en scène, faute de public et faute de lecteurs qui ne soient pas contraints par le programme d'un concours. Adroitement ou pas, la préfacière anglaise de 1988 ne fait qu'exprimer ce jugement de l'histoire. Ne vous énerverez pas pour rien. Après tout, vous-même, dans votre introduction à quatre pièces de Voltaire en GF Flammarion, vous avez retracé la courbe inexorable de l'enterrement du théâtre voltairien, à l'aide, il est vrai, d'une thèse de doctorat. Alors, la déconfiture du théâtre, la déconfiture historique du théâtre voltairien est indéniable. Mais, au plan esthétique, je persiste à ne pas voir distinctement, clairement et distinctement, comme disait l'autre, la supériorité décisive de Bajazet ou Iphigénie sur Zahir ou Mahomet. Très franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas où est la supériorité décisive. Vous voyez ce qui fait que, comme disait Pascal, il y a un changement d'ordre. Hein ? Je ne vois pas. Donc, il pourrait bien s'agir d'un préjugé tourné en cercle vicieux. On ne joue pas Voltaire parce qu'il est suranné, inintéressant, et il est suranné et inintéressant parce qu'on ne le joue pas. Je vous rappelle qu'il n'y a rien eu en 1994, pour le tricentenaire de sa naissance, à la Comédie française. Rien. Qu'à Genève, on a voulu jouer, Hervé Loichmol a voulu jouer Mahomet, et qu'il n'a pas pu le faire sous la pression d'un certain Tariq Ramadan, au nom de la communauté musulmane, blessé, bien entendu, dans sa pudeur. Alors, j'exagère, il n'y a pas eu d'interdiction. C'est contraire aux mœurs démocratiques et nos amis suisses s'en garderaient bien. La municipalité s'est contentée de supprimer la subvention indispensable à la présentation de la pièce. Vous voyez qu'on respire quand même un peu mieux. Donc, grâce à un petit miracle, l'inscription de Zahir à votre programme, vous êtes confronté, à mon sens, pour le concours, à une expérience authentiquement esthétique, au sens où je l'entends, beaucoup plus qu'érudite et historique. Hein ? Une expérience esthétique, c'est-à-dire que vous avez à trancher en conscience sur la question suivante, que vaut cette pièce ? Que vaut cette pièce ? Au moins pour la lecture, puisqu'on ne peut pas faire appel à des mises en scène concurrentes. Alors, avant de tenter de dire ce que vaut cette pièce, il faut que je vous raconte une anecdote. J'ai mis 10 ans à obtenir le droit de publier le GF contenant 4 pièces de Voltaire. Alors, comment est-ce que ça s'est produit ? Ben, un jour, je vais chez GF Flammarion parce que j'avais 2 volumes sur Diderot en cours, son théâtre et ses théories esthétiques. La directrice de la collection me tend un volume. Je regarde et je vois Charles IX, 1789, date de la première représentation, Charles IX de Marie-Joseph Chénier, le frère d'André. Alors, je la remercie poliment pour le cadeau et tout aussi poliment, je lui demande, mais alors, pourquoi est-ce que vous publiez une pièce de Marie-Joseph et pas de François-Marie, dit Voltaire depuis François-Marie Arouet, dit Voltaire depuis 1718. Alors, elle est d'abord interloquée, un moment de silence, puis elle me dit, Jean, je crois que, oui, l'argument me semble recevable, effectivement, je ne vois pas quoi répondre. Donc je vais le poser au comité, poser la question au prochain comité éditorial. Verdict, d'accord. Un volume, mais pas plus, et qu'on n'en entende plus parler. Hein ? J'étais aussitôt soupçonné de vouloir saboter l'édition en projet du théâtre de Voltaire, dirigé par Pierre Frantz, celui que vous avez au programme. Donc vous voyez que tout se tient dans la nature, comme disent les matérialistes du 18e. Bon, alors, un texte fictionnel tel que Zahir peut donc s'approcher par au moins deux ou trois chemins. Premier chemin, ce que j'appelle la linguistique. Hein. Deuxième chemin, l'érudition historique, je l'ai évoqué. Troisième chemin, l'esthétique. L'entendement esthétique, c'est-à-dire pas des jugements comme ça, mais une réflexion un peu ordonnée. Quel est l'intérêt du chemin érudit ? C'est qu'on y réalise, parce que c'est historien, historique, on y réalise l'accord des esprits raisonnables sur des faits, des dates, des documents. Hein, bon. L'ennui, hélas, c'est que ce chemin ne mène jamais au cœur des œuvres. Jamais. Hein, je vous le dis sur la base de mon expérience, autrement dit, ce serait une vérité expérimentale, comme on dit. À quoi ça sert l'érudition historique ? Essentiellement à éviter des bourdes. Vous voyez ? Pas dire de grosses bêtises, à mieux comprendre les processus d'édition, de réception, etc. Si vous voulez, c'est un balcon quand vous habitez au 7e étage, hein, c'est utile. Alors que faut-il entendre par interprétation historique, esthétique, je veux dire ? Voici ma définition, je la répète, repérer et ordonner, articuler les opérations de pensée esthétique qui font qu'un texte est ce qu'il est, sans lesquels il ne serait pas ce qu'il est. Qu'est-ce qui est indispensable ? Autrement dit, ce sont les lois constitutives, immanentes, non écrites, qui font que le texte que vous avez à lire ou à voir, entendre, hein, sur scène, est ce qu'il est. Alors, les lois constitutives, c'est celles où, si telle loi manque, si telle loi esthétique manque, le texte ne peut pas s'écrire comme il est. Vous voyez ? Bon. Donc il faut les hiérarchiser, les articuler, exactement ce qu'on fait en histoire essentiellement. Donc la solution n'est pas dans les champs lexicaux. La solution de l'entendement, le chemin de l'entendement esthétique n'est pas dans les champs lexicaux, il n'est pas dans les figures de style, hein, qui ont envahi le lycée. Je regardais des copies pendant ces dernières vacances d'un copain philosophe en classe préparatoire scientifique, on leur a donné un sujet de 3-4 lignes, ils analysaient le champ lexical et les figures de style du sujet, de l'énoncé. Voilà, vous dites, on est au bout d'un processus. Il y a une acculturation formidable, ça marche, ça marche. Alors, ça n'est pas les champs lexicaux, c'est pas les figures de style, c'est pas l'histoire littéraire, c'est pas la sociologie littéraire. J'ai filé un livre sur la sociologie littéraire, c'est pas la psychanalyse, ça n'est pas la biographie, c'est pas la composition sociale des spectateurs, tout ça a été étudié, hein. C'est pas la distribution des spectateurs dans la salle, tout cela ne mène à pas grand-chose. Alors prenons un exemple, tout de suite, les fameuses tirades qui étonnent notre consoeur. Des œuvres complètes. Quelle est leur première fonction esthétique ? Au lieu de se demander si Racine aurait fait aussi mal, quelle est leur première fonction esthétique ? C'est à l'évidence de constituer des tirades, c'est-à-dire se distinguer des répliques. Hein, d'accord. Hein, c'est d'être des tyrannes et de se distinguer par la sorte des répliques. C'est ça leur première opération de pensée esthétique à ces tyrannes, dont l'équivalent s'appelle un discours dans un roman. Discours du narrateur ou d'un personnage. une grossière erreur, presque unanime, je vous le signale, hein, presque unanime, consisterait alors à croire qu'un dialogue théâtralise un roman. Ça, vous le lisez partout. Hein. Un dialogue théâtralise un roman. Et qu'est-ce que fait un récit au théâtre ? Il narrativise une pièce de théâtre. Ou bien on dira, c'est très mauvais pour un bon roman d'avoir beaucoup de discours conceptuels. La preuve de Thomas Mann, Mouzil. Hein, pas grave. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est du pipeau. C'est ce que j'appelle une farce esthétique. Oui. C'est du pipeau. Ça n'a ni queue ni tête. Ça ne sert, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, Voltaire, notre pâle imitateur, veut confier à des tirades le soin d'exprimer des conflits religieux, des conflits de fidélité, des conflits d'appartenance. Pourquoi ? Parce que la politique et la religion appartiennent de droit à la tragédie, contrairement, et c'est ça qui fait la différence, avec la comédie qui s'occupe de conflits privés, domestiques, et ce qui reste le cas dans le drame bourgeois, 20 ans, 25 ans après Zahir, dans le drame bourgeois de Diderot. État versus famille, oui, État versus famille. La comédie n'a pas le droit aux personnages historiques, légendaires, ni princiers. Alors vous constatez immédiatement l'alliance indécomposable du conceptuel, la politique, la religion, tout ce que vous voudrez, et du dramaturgique, la tirade. Hein ? La comédie peut raréfier la tirade, elle peut même l'effacer. Ça ne lui est pas interdit. Il faut bien comprendre que dans une tragédie, c'est interdit d'effacer la tirade. Dans une tragédie classique, au sens large du mot. Hein ? Jusqu'au drame romantique. Hein ? Jusqu'au drame romantique. La tirade était une composante obligée de la tragédie. Qu'est-ce que c'était ? C'était un plaisir attendu. Un banc d'essai pour l'auteur et l'acteur. Et devant un public que vous savez, à l'époque, extrêmement réactif et indiscipliné. Quel est alors le second souci de notre soi-disant enragé propagandiste des Lumières militantes ? Assez évidemment de décider à qui il confie des tirades. Deuxième opération de pensée esthétique, dont l'explication ne se trouve ni dans le régime politique de l'époque, ni dans le genre tragique, ni dans la religion, ni dans la stylistique, ni dans l'enfance de l'auteur. Aucun rapport. La solution la plus logique est de mettre ces tirades dans la bouche de personnages habilités. Et c'est là qu'on rencontre l'énorme maladresse et étourderie de Voltaire par rapport à Racine. C'est que Voltaire, emporté dans un élan aveugle et précipité, 3 semaines, avec des mondanités, des soirées, des boudoirs, etc., confie aussi cette tirade aux belles lèvres rouges de Zahir, parce que les actrices étaient peintures lurées, comme vous savez. Faut-il être balourd ou indifférent à la vraisemblance ? Alors deux hypothèses se profilent aussitôt. Alors, Voltaire n'a pas bien lu Racine. Deux, mais on peut penser à une explication plus excitante. Pourquoi plus excitante ? Parce que plus hégélienne. Les Lumières barreraient désormais l'accès au tragique. Oui. C'est l'explication, par exemple, de... Je peux prendre Régis Debray, que j'admire par ailleurs infiniment, mais qui a écrit un essai ahurissant sur les lumières, aveuglantes lumières, chez Gallimard, où il enfile les lieux communs avec une brillance absolument stupéfiante, et il tombe sur ce thème, ce thème-là, bien entendu. Donc, on pondait toujours des tragédies, mais le sens du tragique s'était dissous dans l'esprit du temps. Hein ? C'est ce que, au fond, ce que Michel Foucault appelait une épistémée. Alors je risque à mon tour une hypothèse. Et si Voltaire, tout bien pesé dans sa tête hypersonique, assailli chaque jour de 10 projets concurrents, avait décidé de faire le choix le plus déconcertant, le plus inattendu? C'est une hypothèse qui ne peut pas être documentée, mais qu'on peut lire dans le texte. Donc elle est un des postulats, un des préalables de la pièce. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien un postulat de la pièce? Parce que ce texte a été joué, imprimé, corrigé moult fois pendant des décennies et que rien n'a jamais varié sur ce point. Hein? Donc c'est bien une loi esthétique constitutive de la pièce qu'il faut confier à Zahir des tirades, malgré le fait qu'elle soit élevée au sérail, etc., etc. Donc il a choisi quoi? De confier les conflits les plus violents, religieux, familiaux, sentimentaux, dans la bouche d'une jeune fille, d'une comédienne. Et non pas dans le grave gosier mâle qu'on attendrait d'un spectateur londonien d'Othello. Ah, pourquoi le fait-il? À cause du sujet, à cause du titre. Desdémone est une victime passive. Zahir, l'héroïne, le lieu des déchirements intimes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire, de toute évidence, me semble-t-il, que Voltaire se confronte d'abord, non pas à Shakespeare, mais à un certain Racine. Et précisément là où Racine était jugé inaccessible. La femme de tragédie. Oui, la femme de tragédie. L'héroïne souffrante. Othello me semble une tragédie de... Je suis en rien incompétent en matière de... En matière de Shakespeare, hein, ce que je dis sur Shakespeare, c'est simplement pour servir vaguement de... Hein. Othello est une tragédie de mâle, me semble-t-il, au pluriel. Hein. Zahir inverse la perspective, même si, bien entendu, les acteurs virils sont très bien servis dans la pièce. Il suffit de compter les vers et les rôles. Mais... le point décisif, c'est Zahir. Oui, c'est Zahir, ici. Le nombre ne fait pas tout en matière d'esthétique. Donc, Voltaire aurait choisi le parti d'une forte passion, d'une catégorie esthétique fondamentale. Ça s'appelle la surprise. C'est une catégorie qui peut se décliner au théâtre de bien des façons. Péripéties, coup de théâtre, scène attendue et non jouée, scène et personnage retardé, dénouement imprévu, etc. C'est cette catégorie de la surprise que Marivaux a inscrit en tête de certaines de ses comédies, hein, Surprise de l'amour. Marivaux, qui est le grand rival de Voltaire au théâtre, hein, vis-à-vis du public. Il y a deux publics, deux théâtres, deux auteurs principaux. Marivaux au théâtre italien, hein, et Voltaire au théâtre français. Ça veut dire que les deux publics sont sociologiquement différents. Hein. Ils vont dans chaque théâtre en sachant ce qu'ils attendent. Hein. Et cette catégorie, où est-ce qu'elle se trouve encore? Elle se trouve en tête du traité des passions de Descartes sous le nom d'étonnement. Alors là, il faut une note, hein, étonnement, au sens fort de la langue classique. Bon. Nous avons tous lu ça en bas des classiques Larousse. Alors, troisième grand point. Imaginez qu'un metteur en scène actuel ait l'idée bizarre de monter Zahir et qu'il ait l'idée non moins étrange de se demander comment je peux réitérer, actualiser cet effet de surprise, hein, qui retient notre amie anglaise. On a alors bien des choix. Zahir peut devenir une gamine, telle est Hyacinthe dans Attali, une gamine nubile ou pas, noire, jaune, maghrébine, métisse, blanche, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans les sérails, vous savez, la nature y tenait. Cette gamine peut apprendre le texte par cœur et le réciter. Ou bien, ce texte est enregistré, elle fait mine de le prononcer. Il peut y avoir un écart, hein, entre l'enregistrement et le mouvement des lèvres. Ou bien encore, la tirade est distribuée entre enfants ou entre enfants et adultes, ou confiée à un chœur ou projetée en vidéo. On peut aussi imaginer des pancartes féministes, des images vidéo d'une marche, des putains de la République, etc., etc. On aurait de nombre de solutions scéniques. Mais le metteur en scène peut aussi décider, pour d'autres raisons esthétiques ou politiques, que souligner le côté surprenant des tirades est une fausse bonne idée. Quoi qu'il en soit, il s'agirait toujours de choix esthétiques, vous voyez, d'opérations de pensée esthétiques, d'opérations de pensée indissolublement esthétique et conceptuelle, esthétique et politique, autour de la notion cardinale en dramaturgie de surprise, vous voyez, de surprise, d'imprévu, d'étonnement, donc d'effet théâtral. Hein, vous ne pouvez pas lire une pièce sans vous poser la question des effets théâtrales, des effets théâtraux. Tout en plus que, vous le savez, Voltaire, il n'y avait pas de metteur en scène avant la fin du 19e, mais Voltaire s'intéressait de très près à la diction des actrices, à l'espace scénique encombré par des spectateurs. Il voulait renforcer les effets spectaculaires et il réécrivait les vers sur place, hein, au vu des répétitions et des représentations. Si on lui disait ça marche pas, ça passe pas, donc, hein, on réécrit. Alors notre consoeur a vu que quelque chose clochait avec ses tirades, que c'était surprenant. Où est son erreur esthétique? Son erreur est d'avoir conclu aussitôt, par pur conformisme, à une méprise esthétique, vous voyez, de la part de l'auteur, à une méprise esthétique, à un manque de savoir-faire, à un recul de l'esprit, du tact, de la vraisemblance entre l'âge classique et l'âge des Lumières. Elle a cherché et cru trouver l'explication esthétique de l'échec historiquement attesté du théâtre voltairien. Elle a justifié le destin. Ça fait partie de l'ordre des choses. C'est ce que Paul Nizan, dans les années 30, appelait les chiens de garde intellectuels. Son erreur est par conséquent de croire trop vite Voltaire incompétent. Oui. Sa compétence érudite lui donne le droit de juger Voltaire incompétent. C'est une vieille histoire, ça, elle porte un nom grec. Qu'est-ce que fait notre consoeur, collègue ? elle fait du zoïle. La différence, c'est que le grec zoïle s'en prenait à un auteur vénéré, Homère, tandis que l'anglo-saxonne musclée malmène un vieux dramaturge devenu SDF et paralysé des deux jambes. En plus, ce sont pile ces deux jambes à Caturne. Mettons. Or, les mêmes anglo-saxons nous ont déjà brûlé Jeanne d'Arc et déporté Napoléon. Ça n'est pas beau. Alors, la critique littéraire, jusqu'ici, ne pouvait pas le dire. Mais depuis le Brexit, évidemment, on peut dénoncer ces viols répétés de l'honneur français. C'est ce que je fais. Quatre, grand quatre, en a-t-on fini avec les tirades ? Pas du tout, pas du tout. Une fois qu'on est lancé dans l'esthétique, il faut aller au bout. D'autres questions esthétiques se posent. En toute logique, il faudra observer combien la pièce offre de tirades aux comédiens et comédiennes. Sur quel sujet ? Distribuer où ? Pourquoi ? Exploiter comment ? Composer comment, pourquoi, faisant jouer quel ressort, dans quelle tonalité. Ça, c'est notre dur métier qui devrait nous valoir une pension supérieure pour métier éprouvant. Mais il se poserait aussi une autre question. Il se poserait aussi une autre question à première vue plus singulière. Singulière, parce que je la trouve nulle part. La toute jeune orpheline du sérail, en effet, obtient-elle des tirades ? Mon interrogation paraît incongrue puisque le texte lui attribue plusieurs morceaux assez étendus. Donc la question est, qu'est-ce que c'est qu'une tirade ? À partir de quand, de quoi décide-t-on qu'il y a une tirade ? La réponse semble aller de soi dès qu'on est au-dessus d'une réplique. Soit. Mais il y aurait un autre critère qui serait cette fois interne à telle pièce. Interne à telle pièce. Donc appartenant à l'ordre des lois esthétiques dont je parlais tout à l'heure. La question change et elle s'exprime ainsi. Zahir prononce-t-elle des tirades aussi longues que les plus longues de ses partenaires ? Incontestablement, non. Incontestablement, non. Encore faut-il se poser la question. Oui. On ne peut se poser la question que si on a réfléchi sur la différence entre l'érudition et l'esthétique. Vous voyez ? Bon. Parce que si Zahir n'obtient jamais une tirade aussi longue que celle de ses partenaires masculins, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que Voltaire a bel et bien calibré la distribution des tirades. C'est ça son boulot. S'il est un dramaturge classique, c'est un de ses boulots. C'est-à-dire que Zahir aurait droit au discours intermédiaire entre réplique et grand morceau de bravoure. Il y aurait au moins trois régimes discursifs, à mon avis il y en a quatre, mais au moins trois régimes discursifs dans la pièce. La réplique, la tirade moyenne qui ne dépasse pas 30 vers pour Zahir, la tirade longue réservée aux comédiens. Alors l'inégalité des sexes s'est-elle alors réintroduite par cette porte presque invisible ? C'est une interrogation évidemment anachronique. S'il avait pu l'envisager, qu'est-ce qu'aurait pu faire Voltaire ? Gonfler le rôle de Fatime comme Shakespeare. Il s'en est gardé. Il s'en est bien gardé de gonfler le rôle de Fatib. Tiens. Alors pourquoi n'a-t-il pas gonflé le rôle de Fatib pour donner plus de volume aux voix féminines dans la pièce, après tout ce travail sur Zahir? Et bien pour éviter, à mon avis, que la tragédie ne tourne à la conversation sous un lustre. Sa visée proprement dramaturgique est de mettre Zahir sous le feu direct des pressions contradictoires des autres personnages et non pas en tête à tête avec sa confidente, de ne pas lancer sa confidente dans de grands discours. Les grands discours avec la confidente ou le confident, c'est canonique, hein, dans la comédie et la tragédie classique. Donc, la raréfaction de ce genre de scène dans Zahir est une opération esthétique silencieuse, mais réfléchie, donc pas du ciel. L'affaire dans Zahir veut se jouer en direct et en face à face entre Zahir et les autres, au point maximal, donc, au point maximal de l'énergie propre au système tragique français. Français. Pas anglais, français. Pas dans la sphère moins forte, moins énergique, vous voyez, de conversation avec sa confidente, avec Fatim. Donc vous êtes là devant quoi? Devant une scène attendue et qui est esquivée. Vous voyez? Qui est esquivée pour des raisons dramaturgiques qui n'ont aucune raison d'intéresser Shakespeare. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont strictement franco-française, interne au système tragique français que Voltaire veut rénover sans le faire éclater. Hugo non plus ne fera pas éclater le système tragique français. Et, bon. C'est du pipeau, hein, la bataille d'Arlady, c'est n'importe quoi. Alors, c'est cela que j'appelle des opérations esthétiques, vous voyez? C'est ce que j'appelle des opérations esthétiques, inaccessibles par l'érudition, l'histoire des historiens ou la sociologie littéraire. Alors, vous allez m'objecter à bon droit la scène d'ouverture entre Zahir et Fatim. Mais je vous fais remarquer, un, que c'est une scène d'ouverture où le premier problème, c'est de calmer le public, qui est vraiment très, très agité à l'époque. Donc on lui balance dans la gueule, hein, une petite tirade de 18 vers de Fatim, il n'y en aura jamais d'autres. Hein. Deux, vous constaterez qu'à part son premier discours, donc le 18 vers, Fatim dans la scène ne dépasse plus 10 vers, hein, contrairement à Zahir, qui, elle, va monter en puissance tout au long de la scène. Hein ? Trois, il faut donc décider, en groupe ou tout seul, si les 18 vers initiaux de Fatim sont une courte tirade ou une réplique allongée. Hein ? Ou une réplique allongée. Une longue réplique de tragédie. Donc, il faudrait comparer avec non pas les répliques courtes, où il n'y a pas de problème, mais avec des répliques plus longues, vous voyez, des autres personnages, pour voir quels sont les calibrages. Hein ? Et à mon avis, un quatrième mode du discours dans Zahir, par rapport aux trois dont j'ai parlé, c'est ces... les discours qui ne sont ni des vraies tirades, ni des répliques courtes. Vous voyez ? Hein, donc vous voyez, là, vous pouvez compter le nombre dans la pièce. Donc si ces 18 vers sont à l'entre-deux destinés à installer le silence dans la salle, ce qui n'était pas une mince affaire. En tout cas, qu'est-ce que vous constatez? c'est que le double régime de la tirade, tirade extrêmement longue, hein, et tirade qui ne dépasse pas 30 vers pour les plus longues de Zahir, est installé 18 vers par Fatib, pour Fatib, et puis la scène 2 qui s'ouvre sur une immense tirade d'Orosmane, hein, qui est réservée, longueur qui est réservée aux hommes, vers 157-214. Alors, pour se faire une idée, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais il faut comprendre qu'une tragédie est aussi une modulation vibratoire de la parole, ou plutôt un chant, à l'époque de Racine et de Voltaire. Quand les spectateurs et comédiens actuels aiment qu'on tire la diction vers un mix de variables, de poèmes et de prose, de poèmes et de prose rimés, et plutôt en général, vous le savez, de la prose versifiée que du chant déclamatoire à l'ancienne. Alors 5, point 5 et dernier. Le risque de notre profession commune, illustré par la préface d'Outre-Manche, serait donc de confondre les grands esprits avec les esprits savants, les esprits simplement savants, ce que nous sommes. Ce n'est pas que les génies tiennent spécialement à ce qu'on fasse cette distinction, ils s'en foutent éperdument. Mais ça tient, ça devrait tenir à notre médiocrité, qui doit nous fixer à notre place. Et à mon avis, la consoeur a quitté sa place, oui, est sortie de sa sphère pour faire la leçon aux grands hommes. Or, je reprends Pascal, il y a des ordres incommensurables. Oui. La préface d'Oxford n'est pas seulement encline à traiter Voltaire comme de haut, incompétent, inapte à produire une tragédie, regardez Racine, elle n'est pas seulement suspecte dans l'ordre esthétique, moi je l'estime quelque peu inconvenante, pour ne pas dire indécente. C'est pas comme ça que j'entends la critique littéraire. Il n'y a pas de critique sans admiration, de bonne critique sans admiration. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la critique d'un mauvais texte. Cocteau l'a dit, c'est dans les mauvais romans qu'on apprend à faire de bons, et c'est dans les mauvais textes critiques qu'on apprend à faire mieux. Et si vous voulez, qu'est-ce qui est inconvenant? Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous disiez, avec sans doute la majorité des intellectuels, que le plus beau roman du 19e, c'est Madame Bovary. Dans l'ordre esthétique, Madame Bovary est un grand roman. Mais Les Misérables, c'est un roman sublime. Alors, confondre la grandeur et la sublimité, vous voyez, c'est très exactement ce que j'appelle être inconvenant, incompétent. Cette préface est incompétente, et c'est parce qu'elle est incompétente qu'elle est intéressante. Et quand vous avez une préface magistrale, comme par exemple Sarobinski sur les lettres persanes, j'avais les lettres persanes à l'agrégation, ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la préface de Sarobinski de côté, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Hein? Bon, voilà. Et si vous ne trouvez pas autre chose, ben votre cours est foiré. Bon, ben ça arrive. Ce que je pense, très sincèrement, et je crois qu'il faut que vous fassiez cet effort, parce que c'est le seul intérêt de Zahir, de ce programme. Ce que je pense, en toute sincérité, c'est que Zahir est une des 10 meilleures tragédies françaises. Je dis 12 pour rajouter Hugo et Mahomet. Il y en a quand même placé 2 sur 12, ce qui est pas mal, je trouve. C'est pas une œuvre sublime, comme Candide. Bon, là, personne ne peut le faire. C'est comme les fables de La Fontaine, personne ne peut refaire Candide. Hein. Un Italien s'y est collé, c'est pas terrible. Mais c'est une grande pièce. C'est une grande pièce. Et c'est parce que c'est une grande pièce que ça devient vraiment intéressant. Car c'est la seule des 10 ou 12 meilleures tragédies françaises à être devenue absolument méprisée, totalement enterrée. Le cas est donc unique, il est sidérant. À qui la faute ? Beaucoup plus aux hommes de théâtre qu'aux universitaires de par la nature des choses. Mais vous voyez que notre universitaire anglaise, elle en rajoute une louche. C'est ce qu'on appelle le coup de pied de l'âne. Alors, on devrait se demander pourquoi les hommes de théâtre montrent un tel mépris. Bon, moi j'ai mon idée sur la question pour avoir accompagné une amie critique dramatique pendant des décennies et assisté à des pots avec les hommes de théâtre. Mais bon, passons là-dessus. Alors, ce diable de Voltaire aurait donc réussi un tour de force, un authentique exploit esthétique, écrire l'unique bonne tragédie apte à devenir maudite après sa 100e année. Écoutez, bravo l'artiste. Hein, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde ça, de faire ça. Et puis il faudrait aussi féliciter une autre actrice de l'histoire avec un grand H, une grande farceuse qui accouche d'une authentique facétie, qui ne doit rien à Tariq Ramadan cette fois. Or, regardez comme tout se tient, comme tout se tient. C'est la mouvance islamiste à laquelle Ramadan appartient par tradition familiale, puisqu'il est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, qui fait la brûlante actualité de la pièce Zahir. C'est-il pas beau ? Hein, il interdit Mahomet à Genève, et c'est grâce à lui et ses pères que Zahir trouve une actualité extraordinaire. Hein. Or, l'actualité que retrouve avec l'islamisme, que retrouve Zahir avec l'islamisme, aucune autre tragédie française, à ma connaissance, n'en approche. Hein ? Alors, nouveau paradoxe, nouvelle facétie, c'est la tragédie française la plus en phase avec notre présent qui se trouve ostracisée de manière implacable. Alors qu'elle ne peut blesser ni la foi musulmane, ni même la foi chrétienne. Écoutez, c'est quand même formidable ça. Alors c'est une opération de pensée esthétique assez intéressante si vous y réfléchissez. Qui est Voltaire ? C'est un déiste convaincu, un anticlérical acharné, un anti-fanatique enflammé. Qu'est-ce qu'il fait dans la pièce, Zahir ? Il tempère ses pensées les plus fermes, ses passions les plus exaltées, au profit du théâtre, au profit du beau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a opéré sur lui-même la purgation des passions idéologiques, cette purgation que, vous le savez, Corneille considérait à bon droit, selon moi, comme une notion fort mystérieuse. Corneille disait, j'ai jamais rien compris à la purgation des passions. Moi non plus. Alors, le sens de l'intérêt, de l'utilité a sans doute joué aussi dans cette modération, puisque la comédie française était sous contrôle royal. Mais cela ne peut advenir, attention, cette purgation des passions idéologiques pour produire une tragédie jouable à la comédie française ne peut advenir qu'avec le bon sujet. Or, nous savons, puisqu'il a écrit en 3 semaines, que ce bon sujet l'a illuminé. un beau jour. Donc, il est exclu d'imaginer que Voltaire s'est demandé, la plume à la main, comment il pouvait adapter Shakespeare pour la scène française. Vous voyez que ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça et qu'il n'aurait pas été enflammé si s'était posé cette question idiote. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, Othello n'est pas une source. Qu'est-ce que c'est alors ? C'est un point de comparaison entre deux traditions nationales hétérogènes. Desdémone dans Zahir devient le personnage chargé d'intéresser le spectateur au sens classique du mot intéressé, intéressant, qui ne veut pas dire qui éveille la curiosité, mais qui touche, oui, qui affecte, hein, la sensibilité. Seconde différence capitale, Zahir ne tombe pas victime d'une machination, mais de machines historiques qui consomment du sang et des larmes pour tourner et broyer. Conflit entre monothéisme dogmatique, ritualiste, exclusif, conflit entre droit du sang et droit du cœur, individu et communauté, histoire personnelle et histoire collective, présent et passé. Conflit enfin entre fille, père et grand frère. Troisième différence. Dans Othello, c'est Desdémone qui fait un don, qui se donne. Elle s'offre aux morts malgré sa peau. Dans Zahir, qui fait le don ? C'est Orosmane. Qu'est-ce qu'il donne ? Tomber sur le cul quand vous voyez ce qu'il donne. Incroyable. C'est un potlatch. Mais sans réciprocité. Hein ? Qu'est-ce qu'il donne ? L'amour. Son amour. Le mariage, la monogamie. Première tirade d'Orosmane. Hein ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que c'est énorme. Que c'est fou. Hein ? C'est énorme, c'est fou. Et surtout, c'est non remboursable. C'est non remboursable. À qui donne tout ça ? À une esclave. Avec quelle contrepartie ? Première tirade. Une seule, qu'on l'aime. Qu'on l'aime vraiment. Sincèrement. Alors, ça ne vous rappelle pas une pièce de Marivaux, qui doit être de 1740, L'épreuve, où le même sujet se pose. Hein. C'est un jeune homme très riche qui tombe amoureux de la fille de son concierge, un château, le gardien du château, et qui veut savoir si elle est amoureuse de lui sincèrement, pour ce qu'il est, pour l'homme nu qu'il est, hein, ou si c'est par intérêt. Et donc, il va la soumettre à une série d'épreuves redoutables. Hein. Pourquoi ? Parce que les gens riches, les gens puissants, les gens célèbres veulent ce qu'ont les pauvres, par définition, et sans problème. Si une collègue vous dit « je t'aime à la folie », bon, vous n'avez pas à offrir la célébrité, hein, la fortune, le pouvoir, vous savez que ça s'adresse à vous. Ben, les riches veulent la même chose, ils veulent avoir tout plus ce qu'ont les pauvres. Alors, ni Orosmane, ni Lucidor, dans l'épreuve, ne veulent qu'on leur donne quoi ? De la reconnaissance. C'est une passion qui est mentionné hein, dans la pièce. Ils ne veulent pas de l'admiration, de l'éblouissement, de la sidération, tout ce que vous voulez comme passion. Ils veulent précisément ce dont, par définition, ils ne peuvent jamais être certains. Hein ? L'amour vrai, qui suppose l'égalité. Alors, là, il me semble qu'il y a une différence. Othello ne croit pas à ce qu'on lui a donné. Hein ? Orosmane donne trop pour être certain qu'on l'aime, pour lui-même. En somme, je dirais que, pour le lecteur ancien et le spectateur ancien d'Othello que je suis, j'ai pas relu la pièce, je dirais qu'en somme, Othello n'a pas confiance en lui. Comprend pas que, au fond, il ne comprend pas bien pourquoi cette jeune femme se donne à lui. Hein? Il n'a pas confiance en lui, alors qu'Orosmane, c'est très différent, il n'a pas confiance en elle. Justement, étant donné l'inégalité, la disproportion vertigineuse. Hein? Donc la transgression, la mort est donc inscrite dans les deux sortes de dons, dans les deux pièces. Parce que ces dons sont aussi des transgressions différentes. La transgression me semble sensible dans le cas de Desdémone, tandis que dans le cas de la pièce de Voltaire, la transgression est énorme, elle est inouïe. Pourquoi ? Parce que au fond, dans l'amour d'Orosmane pour Zahir, l'amour d'Orosmane pour Zahir revient à jeter un pont entre l'Occident et l'Orient. Oui. Jeter un pont entre l'Occident et l'Orient. Un pont qui repose sur deux piliers principaux, l'amour fou et la générosité héroïque. C'est-à-dire que la générosité héroïque tente à devenir quelque chose de commun et de supérieur à la différence des religions. Vous voyez ? Établit une morale commune, hein, au-dessus du fossé des religions. Les deux titres renvoient donc à des sujets différents, mais comparables, réunis seulement par le fil de la jalousie égarée sur des apparences trompeuses. Mais vous voyez que, en aucun cas, ces apparences ne peuvent expliquer le fond des choses, hein, ni pour Othello, ni pour Orosmane. Ça se joue, hein, ça se joue ailleurs, plus profondément. En bref, Voltaire a exclu Iago et sa passion envieuse au profit de quoi ? Au profit d'un malheur historique millénaire, embrassant des millions d'êtres humains, des siècles, des siècles, des milliers de livres, des millions de prêches, des conquêtes, des croisades, des batailles, des passions et idéologies acharnées. Il me semble que dans Othello, il y a peu de cela, me semble-t-il. Hein, mais encore une fois, en tous les cas, dans Zahir, c'est le cœur de la question. Vous voyez ? Ça ne me paraît pas le cœur de la question dans Othello. Donc la question fondamentale de Zahir me paraît celle-ci. À quelles conditions pourrait-on lier l'Orient et l'Occident ? Qu'est-ce qui permettrait de lier l'Orient et l'Occident ? Alors ma consoeur anglo-saxonne répondrait que Racine était trop génial pour poser une question aussi bête, mais c'est une question cruciale aux yeux de Voltaire. Je pourrais vous le montrer, d'ailleurs je l'ai montré dans un article sur l'Orient dans l'essai sur les mœurs, offert à un collègue. Alors qu'est-ce que devient la dernière question sur laquelle je vais m'arrêter. C'est la question qui a été l'objet de mon premier article littéraire, non pas publié en tant que jeune préparateur à la grègue à l'ENS de Saint-Cloud, mais renéoté dans un cahier du Centre d'études marxistes et de Centre d'études et de recherche marxiste. Que je l'avais envoyé à l'UMA, qui l'a envoyé à La Pensée, la revue La Pensée, qui a publié à la fin les interprétations du Jardin de Candide, et puis le CERM, le Centre d'études de recherche marxiste, avait publié. C'est-à-dire roman et idéologie, vous voyez, dans Candide, et là, vous auriez la question, qui est absolument cruciale, hein, comment ce que ces problèmes que j'ai évoqués, notamment le rapport Orient-Occident, apparemment séparé par une frontière religieuse infranchissable, hein, comment est-ce que ça s'exprime ou ne s'exprime pas dans le texte? Et deuxième question, comment dans Candide on traite roman et idéologie, récit et idéologie, et comment dans Zahir ces questions-là affleurent ou n'affleurent pas, sous quelle forme dramaturgique? C'est ça le problème. Hein, c'est pas l'idéologie des Lumières, ça, on s'en fout. Hein, c'est ces problèmes-là qui tiennent au sujet, comment Voltaire les intègre-t-il dans une tragédie qu'il veut voir jouer? Et il ne peut la voir jouer qu'à la Comédie Française, parce que la Comédie Française n'est sans non seulement à ses yeux la meilleure troupe de comédiens, ce que pensait aussi Goldoni, d'Europe, hein, ce que pensait aussi Goldoni 50 ans plus tard, mais parce que la Comédie Française a le monopole de la représentation des tragédies, ce qui n'est pas le cas pour la comédie, puisqu'il y a un théâtre italien et un théâtre de la foire. Alors, comment est-ce qu'il fait pour indiquer ça? Est-ce qu'il y a une issue? Ben moi, je crois qu'il y en a une, mais oui ou non, y a-t-il des suggestions? Oui. Alors que, paradoxe inouï, sur lequel je termine, cette fois-ci pour de vrai, des catholiques fervents ont admiré la pièce à l'époque, l'ont jouée dans des institutions religieuses, à la place de Polyeucte. Hein. Aujourd'hui, les questions de Zahir sont celles de tout le monde, mais elle est enterrée. Hein, elle n'intéresse ni les comédiens, ni les éditeurs, ni les hommes de théâtre, ni les éditeurs, etc. Ou alors on aboutit à des préfaces qui valent ce qu'elles valent. Autrement dit, quel est le paradoxe le plus fort? Que des catholiques aient admiré une pièce comme celle-ci, alors qu'ils ne se sont pas trompés avec Mahomet. Ils ont, eux, parfaitement compris, contrairement à Tariq Ramadan, qu'il ne s'agissait pas de Mahomet. Hein, le Parlement de Paris, qui a interdit la pièce après deux représentations, il a parfaitement compris qu'il s'agissait de Mahomet, de Jésus et de Moïse. Vous voyez, les trois fondateurs de religion, les fameux trois imposteurs du célèbre manuscrit clandestin. Hein, donc l'affaire n'a pas marché du tout. Vous voyez, le transfert à Mahomet n'a pas du tout marché, n'a trompé personne. Pourquoi ça a marché dans Zahir? Voilà aussi une question. Et pourquoi ça a marché dans Zahir? Comment s'y est-il pris? Vous voyez, hein, il a réussi à faire que des catholiques fervent, instruit, se reconnaissent dans les discours des chrétiens. Hein? Et en même temps, c'est un texte qui va au-delà du problème de religion, qui montre que ce n'est pas le problème fondamental, ouais? Même si c'est le problème de la pièce. Est-ce qu'il le donne à voir, à dire, à qui, comment? Voilà la question. Hein? Je m'arrête là-dessus. À vous de parler.
Vous avez opposé à un moment le fait que ce soit une héroïne féminine aux pièces de Racine, mais du coup, en quoi vous les opposez par exemple à Phèdre, qui a quand même beaucoup de tirades et qui a une grande importance dans la pièce et qui est une héroïne tragique aussi?
Pourquoi j'oppose
Zahir à Phèdre, par exemple, en termes d'importance de la figure féminine?
Non, je me suis mal exprimé. Je ne l'oppose pas. Je dis qu'au contraire, le fait que Desdemone devienne le titre de la pièce sous le nom de Zahir, hein, par rapport à Othello, et soit non pas la victime passive d'un coup qui se joue entre hommes, hein, signifie que, à mes yeux, Voltaire s'affronte à Racine sur le terrain où Racine était considéré comme totalement au-dessus du lot, voyez, c'est-à-dire l'héroïne, hein, l'héroïne. On considérait en général, et pas à tort, que les héros masculins de Racine, bon, étaient quand même un peu faiblards face à ceux de Corneille, voyez. Mais que dans la peinture de la femme, alors là, Racine était absolument imbattable, vous voyez. Donc, ça signifie bien à mes yeux qu'il se confronte à Racine sur le terrain racinien, vous voyez. C'est ça que j'ai voulu dire.
Une autre question, peut-être ? Pour laisser la réflexion se faire dans l'esprit des élèves, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur cette désaffection, parce que de cette pièce, puisque tu la présentes à la fois comme une énigme et comme une sorte de cercle vicieux, où on ne la joue pas, donc on ne l'apprécie pas, et on ne l'apprécie pas, donc on ne la joue pas. Est-ce que tu crois que le seul vice de construction, c'est celui qui est désigné par cette préfacière dont tu ne nous donnes pas le nom, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons que celle-là? Et lesquelles? Celles qui sont alléguées, puisque tu en as fait la liste.
Je n'ai pas seulement mis 10 ans à obtenir, grâce à un hasard, hein, une coïncidence, ce volume de théâtre. J'ai également parlé, j'ai fait un article dans la revue de la Comédie française sur la tragédie sur le théâtre voltairien, à la demande du rédacteur en chef, qui a été ensuite une dizaine d'années ou une douzaine d'années professeur de théâtre à l'ENS Lyon, Jean-Louis Rivière. J'ai vu le directeur, l'administrateur de la Comédie française qui m'expliquait qu'il était tout à fait d'accord avec moi, mais qu'il n'avait qu'une salle et c'était impossible. Maintenant, ils en ont 3, rien n'a changé. C'est vraiment un préjugé chez les hommes de théâtre que ça n'a aucun intérêt. On va tourner avec 3-4 pièces de Racine, 3-4 pièces de Corneille, toujours les mêmes en gros.
C'est partie des 12.
Les 5, 6, 7 pièces de Molière, et puis ça va. Pourquoi? Alors pourquoi les hommes de théâtre ne sont pas intéressés? À mon avis, pour un problème absolument crucial, les ayant fréquentés quand même assidûment pendant longtemps, Qu'est-ce que tu gagnes à monter une pièce de... Si tu t'appelles pas Hervé Loachmol, directeur pendant des années du centre de Ferney, tu vois, etc. Maintenant directeur de la Comédie de Genève, hein, là, c'est là qu'il voulait monter Mahomet. Si tu as un homme de théâtre, un metteur en scène, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu te mesures à personne. Alors, leur grand problème, c'est de se mesurer les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut tourner, il faut monter les mêmes pièces. Tu vois? Parce que c'est un champ de compétition. Là, vraiment, l'analyse bourdieusienne marche à fond. Hein. Autant elle n'aboutit à rien quand il s'agit de comprendre un roman. Mais pour comprendre le jeu universitaire et pour comprendre le jeu théâtral, là, la théorie des champs de Bourdieu marche à 100%. Hein. Et puis, ils ont l'impression que c'est un bis, c'est un décalque de racines, donc, tu vois. Alors que si tu lis Mahomet, tu vois bien que c'est un mixage, en réalité, de... bien sûr que le rival, c'est Racine pour Voltaire, mais en même temps, il s'est bourré de vers cornélien, tu vois. Bon, Mahomet, là, c'est moins net, peut-être, dans Zahir, mais dans Mahomet, c'est très clair. Non, je crois que là, il y a quelque chose qui fait cercle. Tu as dans le coup les éditeurs, hein, le fait que 13 volumes de la correspondance, tu vois, complète, hein, 13 volumes de la Pléiade, la correspondance, pas un volume de théâtre. Tu as les éditeurs, les critiques. Le problème, par exemple, pour vous, c'est de savoir, moi, j'en sais rien, hein, est-ce que la préface de... Moi, j'ai pris une préface qui m'intéresse, c'est-à-dire une préface avec laquelle je peux me mesurer, celle des œuvres complètes. Est-ce que la préface de Pierre Frantz vous donne l'impression que c'est qu'il est sincère, que c'était vraiment une belle pièce, qu'elle met en... Comment ? Non, mais c'est votre avis qui m'intéresse, j'en sais rien, moi.
On pourra couper au montage, hein, vous inquiétez pas.
Est-ce que vous avez l'impression, en la lisant, cette pièce, puisqu'on ne peut la lire, que c'est une grande pièce? Est-ce que vous partagez mon avis que c'est une des 12 meilleures tragédies françaises, ou pas? Ou ça vous paraît tout à fait exagéré? Moi, j'ai aucun intérêt dans la vente de Zahir, puisque GF me paye au forfait. Alors donc, que ça vende ou pas derrière... C'est pas pour jouer au paradoxe, mais personnellement, j'attends que quelqu'un me démontre, tu voyez, esthétiquement, le gouffre, l'abîme esthétique entre Bajazet, Iphigénie et Mahomet et Zahir. Alors je trouve que Zahir et Mahomet sont des pièces qui en plus nous touchent, vous voyez, touchent notre présent, pas la faute de Racine ni de Voltaire, aussi c'est la faute de Voltaire. Parce qu'on retombe sur des problèmes cruciaux de Voltaire, pas seulement de Voltaire, on connaissait le titre Mahomet, hein, le fanatisme ou Mahomet. Hein. Alors que Iphigénie, moi ça me laisse froid, enfin, je veux bien écouter un peu. De toute façon, j'ai toujours été un cornélien, quand je suis entré en sixième, mon père m'a demandé ce que je voulais, je lis le théâtre de Corneille. Il n'y avait pas encore les trucs à la mode actuelle. Hein. Alors, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une grande pièce ou pas du tout? Oui.
Pour revenir sur la préface, J'ai l'impression qu'en fait, l'auteur de la préface entame un combat qui est perdu d'avance, en fait. Qu'il essaye de montrer que c'est une grande pièce, alors que justement, nous, comme on ne l'a jamais étudié déjà, bah, on part avec un a priori dessus. Et du coup, même en la lisant, il y a des morceaux que je ne peux pas m'empêcher de trouver très beaux, même qui sont très différents de Racine, mais qui ont vraiment leur propre force. Et en même temps, comme j'ai lu Racine avant, j'ai l'impression que c'est qu'un pâle copier-coller. Et je trouve que c'est difficile de dépasser cet a priori-là par rapport à la pièce.
Mais on ne pouvait pas écrire autrement. On ne pouvait pas écrire autrement. Vous avez là, c'est pour ça que je citais Michel Foucault, vous voyez, hein, vous avez, de même qu'il y a des pensées inconcevables, hein, par exemple, dire que Marivaux s'arrête au seuil des passions. Ça n'a aucun sens, c'est une absurdité historique et textuelle. Qui fait pourtant l'unanimité de la critique depuis 75 ans. Oui, c'est inconcevable, ça n'a pas de sens. C'est absurde. Et bien de même, vous ne pouvez pas écrire autrement que au 18e. Donc là, il faut être sensible. Or, vous remarquez que les musiciens ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Là, il faut comparer les théâtreux, les littéraires et les musiciens. Personne ne va s'étonner qu'on joue 3-4 musiciens de la même époque qui ont un air d'époque. Hein. On va pas jouer avec du Mozart, vous voyez. Hein. Or, ce qui se fait en musique ne se fait absolument pas au théâtre. Pourquoi ? On a une institution payée pour ça, ça s'appelle la Comédie Française. Elle est en charge de notre patrimoine théâtral, vous voyez. Ça met en scène non seulement les hommes de théâtre, les éditeurs, la critique, mais ça met aussi en scène une institution centrale de l'art théâtral français qui est la Comédie Française, qui ne remplit pas son rôle, de toute évidence. Vous voyez, elle est là pour nous faire visiter. Et maintenant, elle a 3 pièces, elle a 3 salles. Alors qu'elle ne vient pas nous raconter qu'elle ne peut pas occuper, vous voyez, une salle... avec du Voltaire qui n'attirera pas les grands-mères et leurs petits-fils et petites-filles. Mais c'est impossible.
Bonsoir. Notre professeur de SPE Lettres Modernes nous a souvent parlé d'un pathétique accru. Ah,
j'entends pas, là. Je vous entends.
Je parle plus proche, d'accord. Notre professeur de SPE Lettres Modernes nous a souvent dit que dans Zahir, il y avait un pathétique accru. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou vous pensez qu'elle est discutable qu'il y a...
Un pathétique accru.
Oui.
Oui, absolument, oui.
Mais est-ce que bien c'est sûr. Du pathétique accru
D'où le choix de Zahir, d'où la rencontre avec le père, le frère, d'où le conflit entre famille et passion individuelle. Absolument, oui, bien sûr. Mais c'est le programme explicite de Voltaire. La tragédie est devenue une conversation sous un lustre, vous voyez. Il faut la régénérer. L'amour doucereux, l'amour galant tue la force tragique. Il faut donc que l'amour devienne non pas, vous voyez, une sérénade cigane sous les chandelles, mais quelque chose de fort, de violent, de conflictuel, voilà, hein. Et vous le voyez très bien, je le répète, avec le fait que, contrairement à Shakespeare, qui est tout à fait dans un autre monde dramaturgique, vous voyez, qui n'a pas ce problème, comment régénérer la tragédie, vous voyez, comment régénérer la tragédie, comment faire que la rencontre entre le spectateur et la tragédie soit le lieu d'une émotion intense, et en même temps d'une poésie intense, hein. Alors, vous le rencontrez tout ça tout de suite dans le sujet. Histoire nationale, mais pas seulement histoire nationale. Rencontre entre l'Orient et l'Occident. Rencontre entre deux grandes religions monothéistes. Hein, le conflit de Zahir, le conflit d'Orosman. Hein, vous voyez, et comment... faire qu'avec tout ça, on obtienne des passions violentes. C'est ça le problème de... Alors, 25 ans après, Diderot répond, bah, c'est cuit, hein, dans la tragédie classique, c'est tué, c'est cuit dans la comédie classique, il faut introduire un genre mixte, intermédiaire, hein, qui repousse les deux genres classiques sur les bas-côtés, il s'appelle le drame bourgeois, c'est-à-dire le drame domestique. Hein, qui pourra mixer du comique et du pathétique. Vous voyez ? Et par exemple, dans la préface de La mère coupable, qui doit être de 1791 ou 1792, donc 50 ans après, 60 ans pile après Zahir, hein, Beaumarchais déclare l'idée tragique est morte, voyez, hein, mais c'est 60 ans après. Hein. L'idée tragique est morte, il faut qu'il y ait une réconciliation à la fin, qui va être le modèle, au fond, la réconciliation entre la comtesse Almaviva et son époux est au fond ce qui est offert aux Français. Oui. Et le traître Bijars, quand on va reprendre la pièce en 97, tout le monde y verra Robespierre. Oui. Alors le destin de... moi, je ne crois pas qu'on puisse, voyez, comme beaucoup de philosophes, dire c'est l'esprit des Lumières qui empêche d'écrire des tragédies. Oui. Oui. Mais c'est une forme à laquelle Voltaire a consacré tout son talent, toutes ses forces, hein, pour la régénérer. Bah, on voit ça au cinéma sans arrêt. Hein. On voit ça sans arrêt au cinéma. Le western, comment régénérer le western, comment régénérer le policier, comment on fait la même chose. Non, mais il faut vous placer dans une perspective, voyez, esthétique un peu. Hein, c'est votre boulot. Hein, si vous enseignez un jour, il faudra que ça serve un peu à ouvrir la tête de vos élèves ou de vos étudiants. Hein. On fait la même chose tous les jours. Un tas de films qui sont des tentatives de régénérer un genre. Tu es d'accord, Jean? Au cinéma, c'est quand même la moitié des films, ou sinon les deux tiers. Hein, donc il faut bien comprendre quel est le projet de... Et ça serait joué par des mises en scène par un grand réalisateur, un metteur en scène et des bons comédiens. Ça aurait exactement le même effet qu'une une tragédie racinienne, si vous voulez mettre à part Phèdre, bon, mais les autres, c'est pas, je veux dire, pas de quoi. Et puis en musique, je le répète, en peinture, il y a des continuités. On fait des expositions de peinture, on fait des concerts de musique où on se pose pas ce problème. J'ai l'impression d'entendre du Racine. Ben oui, en musique, vous avez souvent l'impression d'entendre du sous Mozart, du sous Beethoven. Et alors, ça n'empêche. Personne ne hurle quand on représente un motif à travers les siècles dans une exposition ou une école. Comprenez ? Et au cinéma non plus. Pourquoi cette espèce d'obsession vous voyez, d'éjection d'un patrimoine théâtral national qui a quand même dominé l'Europe. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas Shakespeare le modèle du 18e en Europe. C'est Voltaire qui révèle Shakespeare. Deux ans à trois ans après, Zahir dans les lettres philosophiques. Personne n'en a entendu parler en dehors d'Angleterre. Vous comprenez ? Si vous voulez comprendre ce que c'est que l'adaptation d'une pièce shakespearienne, ce qui n'est pas le cas de Zahir, l'adaptation d'une pièce étrangère, il faut aller lire, c'est au début du 19e, il faut lire la préface de Benjamin Constant
à son adaptation du Wallenstein de Schiller. D'abord, là, vous avez des règles classiques qu'aucun critique ne mentionne et que Benjamin Constant connaît très bien. Hein, des règles classiques qui ne figurent pas dans les règles qu'on enseigne dans les lycées et les universités. Dans la préface de l'adaptation, où Wallenstein, où Benjamin Constant explique pourquoi il a supprimé les particularités historiques de Wallenstein, du personnage Wallenstein, sa superstition, sa croyance dans les cartes, oui, des trucs. Parce que c'est pas français. Théâtre français, Goldoni disait la même chose. On ne peut pas jouer mes comédies italiennes en France. On ne peut pas. C'est tout ça que pose cette pièce, vous voyez. C'est passionnant, vous voyez, le dossier avec et autour de Zahir, vous avez accès à qu'est-ce que c'est que le théâtre, qu'est-ce que c'est que la régénération d'un genre, mais il ne faut pas s'enfermer, vous voyez, dans une perspective étroite. Il faut bien comprendre. Dans mon petit topo, je vous parlais du polar. Vous voyez bien que ce n'est pas une question de vraisemblance. C'est une absurdité esthétique totale. Ouais, totale. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas le sujet. Dans les œuvres complètes de Voltaire, c'est un truc qui va durer 150 ans ou 200 ans, vous voyez. C'est quand même hallucinant de laisser passer qu'un comité de lecture, parce que c'est pas seulement ce qu'elle écrit, elle, c'est que le comité de lecture ne trouve rien à redire. Ils ne disent pas, mes chères madames, on va vous laisser vous occuper des variantes, puis on va confier la préface à quelqu'un d'autre. Non, ça passe comme une lettre à la poste. Alors c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est dans le n'importe quoi qu'on apprend son métier. Votre métier.
Une autre question, peut-être ? N'osez plus, si. Bien, ben, écoute, puisque tu ne suscites pas de contradictions, c'est sans doute que tes arguments ont porté.
C'est peut-être que la pièce ne les intéresse pas assez pour
avoir
envie de se dépenser dans une discussion.
En tout cas, si vous voulez me transmettre des objections ou des repentirs des questions que vous n'avez pas posées, vous pouvez me les transmettre.
Oui, vous pouvez discuter dans l'après-coup. Voilà. Et m'envoyer vos...
Et puis nous, on va réfléchir à redonner un titre à la conférence pour sa diffusion, régénérer Zahir, ou avez-vous lu Zahir, enfin bon, pourquoi Zahir n'est jamais mis en scène. On va trouver un titre un peu racoleur pour la diffusion. Voilà, ben, on peut peut-être applaudir une dernière fois Jean Gabriel pour cette brillante démonstration.